18-20.
Le 18-20 ce soir sur le sucre et les édulcorants. Si tout le monde est d'accord pour dire qu'un excès de sucre est dangereux pour la santé, qu'en est-il exactement des édulcorants? Les études scientifiques disent tout et son contraire, sans parler des lobbies extrêmement actifs qui ont tout intérêt à défendre leurs bonbons respectifs. Alors faut-il chercher à consommer raisonnablement du sucre? Mais comment mesurer ce raisonnablement? Peut-on substituer des édulcorants? Mais là encore, jusqu'à quelle limite? On essaye d'y voir plus clair ce soir avec vous, amis auditeurs. Bec sucré ou salé, praliné ou caramélisé, vous avez la parole jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le standard d'Inter 01 45 24 7000 où nous filons tout de suite rejoindre Joël de Martinique. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir France Inter.
Bonsoir, nous vous écoutons, vous ouvrez ce téléphone sonne sur le sucre.
Voilà, alors je disais que on connaît depuis 1960 la dangerosité du surplus de sucre consommé par les habitants. Qu'attend-on pour pouvoir prendre des mesures sérieuses pour endiguer cette épidémie de diabète qui ronge le monde?
Très bonne et simple et vraie question, Joël. Merci de l'avoir posée. Pour vous répondre, les invités du téléphone sonne. Béatrice de Rénal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nutritionniste, auteur de « Ouvrez l'œil avant d'ouvrir la bouche », conseil d'une nutritionniste en guerre contre le marketing alimentaire. C'est chez Robert Laffont. Boris Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin endocrinologue, diabétologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, HP. Et enfin, Laurent Chevalier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en duplex à Montpellier, médecin nutritionniste, attaché précisément au CHU de Montpellier, auteur de « Alors on mange quoi ?», le guide du bon sans toxique, c'est chez Fayard. Qui veut répondre à Joël, Boris Ancel?
Comment faire pour endiguer
cette épidémie?
Je crois que on sait aujourd'hui que le diabète est une maladie qui est multifactorielle et qui est liée, un, à une sédentarité qui s'est accrue au cours des dernières décennies, et deux, à une alimentation qui est trop riche en calories et déséquilibrée, avec probablement un apport de glucides, un apport de sucre qui est trop important. Je crois qu'aujourd'hui, bon, à l'échelle des politiques, je ne vais pas me prononcer là, c'est pas une émission politique, je pense, aujourd'hui. À l'échelle individuelle, c'est simplement d'aller vers une alimentation qui soit équilibrée et qui comporte suffisamment de graisse et de bonne graisse, de protéines, de fibres, donc c'est les fruits, les légumes, les produits céréaliers bruts, et du sucre, mais du sucre sous forme d'aliments bruts. Je crois que là-dessus, il y a un consensus aujourd'hui. Et ce sont des messages qu'il faut relayer si on veut endiguer l'épidémie d'obésité, l'épidémie de diabète.
Aliments bruts, ça veut dire
des aliments les moins transformés possibles. Les fruits, les légumes et encore une fois les produits céréaliers complets. Évitons tout ce qui, j'ai l'habitude de dire, ce qui croustille.
C'est-à-dire genre les gâteaux, les biscuits.
Les céréales industrielles transformées. Les biscuits, barres chocolatées. Encore une fois, on n'est pas là pour interdire tous ces aliments. On est là simplement pour dire qu'est-ce qui est une alimentation qui nous permet de vivre en bonne santé. L'alimentation, c'est d'abord du carburant pour être en pleine forme, pour vivre en bonne santé. Deuxièmement, c'est du plaisir. Et évidemment, pour le plaisir, tout est permis, mais en petite quantité.
Béatrice de Rénal, nutritionniste, je le rappelle.
Oui, alors en fait, effectivement, on ne peut pas attacher les gens dans une prison puis leur dire vous allez manger que ce qu'il convient de manger, c'est-à-dire que chacun est libre. Après, ce qu'il faut, c'est avoir la bonne information. Aujourd'hui, je pense que les gens ne l'ont pas forcément, dans la mesure où il y a peut-être 20 ou 40 ans, les gens mangeaient des produits bruts, effectivement, nature, sortis du jardin, du marché, etc., et les préparaient. Ça veut dire que la densité calorique était assez faible, donc on mangeait des grosses quantités. Et tout allait bien. Aujourd'hui, on a des produits préparés, c'est-à-dire que les produits sont beaucoup plus denses et on en mange pas tellement moins. C'est-à-dire qu'on a augmenter considérablement l'apport calorique global et donc effectivement beaucoup de sucres cachés, c'est-à-dire des sucres qui ne goûtent pas le sucre. Donc le sucre lui-même, on ne peut pas lui dire grand-chose parce que quand vous prenez un soda, vous sentez bien que c'est sucré, vous vous méfiez. Quand vous mangez des frites, vous voyez bien que c'est gras, vous vous méfiez. Mais quand vous mangez beaucoup d'autres aliments, on ne se rend pas compte que c'est sucré, alors qu'il y a du sucre caché dedans.
Les sucres cachés, un exemple d'aliments transformés qui vous vient à l'esprit ?
Eh bien, par exemple, dans les soupes, vous en avez, donc dans les soupes qui sont salées, vous en avez...
Très salées, souvent.
Voilà, vous en avez beaucoup aussi dans les biscuits d'apéritif qui sont salés, vous en avez à peu près partout. Il y a une étude qui vient de sortir sur le Canada qui montre qu'il y a 66% de sucre dans les produits, dans les rayons. Donc, dans les produits salés, évidemment, sucre.
Laurent Chevalier, médecin nutritionniste au CHU de Montpellier, où vous vous trouvez, vous avez la parole.
Alors, je voudrais compléter un peu ce qui a été dit. Il y a un certain nombre de personnes qui ont l'impression de ne pas manger beaucoup de sucre, puisque la consommation de sucre sous forme de morceaux et de poudre a diminué par rapport à il y a une ou deux décennies. Et en fait, eh bien, ce sucre, il est où ? Il est effectivement plus ou moins caché. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand vous consommez, pour répondre à Joël, 100 grammes de glucides, de sucre, eh bien, il n'y en a que 30% qui vient des fruits, des légumes qui sont bruts, effectivement, et naturels. Donc, tout le reste, ça vient de l'industrie. Et pourquoi l'industrie, elle a mis du sucre ? Elle a mis du sucre pour flatter les sens, elle met du gras pour qu'il y ait une onctuosité. Donc, on a un vrai problème avec toute cette industrie agroalimentaire qui a rajouté un peu partout du sucre, etc. Et alors, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que tout d'un coup, elle nous dit « Ah ben oui, vous pouvez prendre des substituts du sucre, des édulcorants. » Et en fait, l'objectif, c'est pas de dire « Vous mangez mieux et moins », c'est de dire « Regardez, vous pouvez continuer à vous empiffrer, on vous propose des produits qui sont moins caloriques, etc. » Alors qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça, et les gens continuent à grossir. Et aux États-Unis, où on consomme beaucoup de sucre et on consomme beaucoup de produits light aussi, eh bien, on continue à grossir. En France aussi, d'ailleurs, on continue à grossir.
Mais est-ce que les produits light en eux-mêmes ou les produits avec des édulcorants font grossir, Laurent Chevalier ? C'est ça la question. Ou empêchent de maigrir, je ne sais pas comment il faut le dire, mais est-ce qu'ils ont un effet, quel effet du sucre alors que ça n'en est pas ?
Alors, il y a une étude récente américaine qui vient de sortir et qui montre que, en fait, la dégradation de l'aspartame, par exemple, un des édulcorants, va entraîner des interactions avec des enzymes au niveau digestif et va favoriser finalement la prise de poids. Et en plus, il y avait une étude assez récente aussi, israélienne, qui montrait que la consommation d'un certain nombre d'édulcorants modifiait ce qu'on appelle la flore digestive. C'est-à-dire que les bactéries qu'il y a au niveau du côlon, et paradoxalement, pouvaient favoriser là aussi le diabète. Donc, si vous voulez, sur ces produits édulcorants, il faut se poser deux questions. Est-ce que c'est utile ? Non seulement ça n'a pas fait la preuve du fait que ça pouvait faire maigrir, mais au contraire, on a des études récentes qui nous montrent que ça peut être l'inverse. Et après ça, est-ce que c'est toxique ? Et alors là, il y a un vrai débat aussi.
Béatrice de Rénal.
Alors, en fait, je pense qu'il faut aussi peut-être arrêter avec l'idée reçue que les industriels sont tous ne veulent que notre mort. Évidemment, ils veulent simplement nous prendre notre argent, mais pas forcément nous voir mourir. Donc, en fait, c'est sûr que ils mettent du sucre parce que, effectivement, lorsque vous faites des process industriels, souvent vous avez moins de goût que ce que vous pouvez faire à la maison. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de booster un petit peu avec des arômes, avec du sucre, etc. Concernant les édulcorants, effectivement, on a maintenant l'habituation du goût sucré et on le recherche. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a rien de moins populaire que de dire aux gens « buvez de l'eau ». Et pourtant, l'eau, qu'est-ce que c'est bon ? Donc, en fait, la maladie, un petit peu, de boire toujours des choses sucrées, même si ce sont enfin, des produits, que ce soit light ou pas light, effectivement, c'est pas terrible.
J'ai une bouteille d'eau face à moi et un soda light, il y a écrit dans les deux cas zéro calorie, est-ce que c'est vrai ?
Ah oui, il y a zéro calorie, ça c'est vrai.
Dans l'eau, ça on est sûr
Non, dans le cola que vous avez, effectivement, il y a zéro calorie. Mais le problème n'est pas là, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez... Enfin, nous, on voit beaucoup de patients qui arrivent avec... qui boivent à peu près un demi-litre de cola light, tous les jours. Est-ce que vraiment c'est raisonnable ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études qui vont démontrer qu'un demi-litre ou un litre, parfois... alors après, on a les taux de consommation d'édulcorants par la population française. C'est des mesures qui ont été faites assez récemment et qui montrent que, messieurs, vous consommez plus d'aspartame que nous. Donc ça veut dire que vous êtes un peu plus sur des boissons sans alcool, bien sûr, avec des édulcorants intenses. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire précisément à ces consommations-là, bien qu'on soit parfaitement en dessous de la dose journalière admissible, c'est-à-dire la dose toxique. Donc, on en est encore loin. D'accord ?
Boris Ancel ?
Je crois que quand on est en nutrition, on touche là un certain nombre de difficultés depuis quelques minutes. On doit donner des recommandations aux gens et il y a le problème des lobbies, on en a touché un mot.
On va y aller.
Il y a le problème des croyances. Il y a beaucoup de croyances qui sont semées par les gens eux-mêmes, qui ont leurs propres expériences, parfois par des soignants qui connaissent pas forcément les données scientifiques. Et puis troisièmement, il y a les données scientifiques. Mmh. Alors dans le domaine des édulcorants, il y a quand même des études qui disent des choses, d'autres qui disent d'autres. Et je crois que c'est très important de ne pas considérer qu'une étude qui est médiatisée, qui montre les risques ou le bénéfice de tel ou tel édulcorant, c'est pas à prendre pour argent comptant. La science, et en particulier en nutrition, c'est un ensemble de données qui doivent être prises et c'est pas une étude qui donne une vérité. Donc contrairement à ce que souvent on dit qu'une étude, qu'on change d'avis, non, on change pas d'avis. Simplement, les informations que nous donnons doivent être prises à leur juste valeur. Et si on regarde aujourd'hui, moi, je me base sur le rapport de l'ANSES, il y a l'Agence nationale de sécurité des aliments qui a passé en revue 1 000 000 d'études sur les édulcorants publiés en 2015, y compris des études qui ont alerté à certains moments sur les risques de cancer, les risques de prématurité. Et si on regarde ce rapport que je vous encourage d'aller lire sur le site de l'ANSES plutôt que de lire des reprises qui sont teintées des avis de tel ou tel lobby, eh bien vous voyez que, un, non, il n'y a pas de bénéfice à consommer des édulcorants, mais deux, et je pense qu'il faut pas alerter outre mesure, il n'y a pas de risque démontré. Et même si parfois, eh bien, certaines études ont suggéré tel ou tel risque, il faut comprendre qu'en science, il y a des limites méthodologiques et qu'on n'a pas aujourd'hui la preuve que ces édulcorants sont dangereux. Alors si vous me demandez ce que je dis à mes patients, parce qu'en fin de compte, c'est ça ma vraie problématique au quotidien, si on me présente la bouteille d'eau que vous avez à côté de vous, ou la bouteille de cola et qu'on me dit, est-ce que c'est équivalent? Je dis non, je dis consommer de l'eau. Mais si un patient me dit, oui mais vous me dites déjà de moins manger, de manger moins sucré, moins gras, est-ce que je peux consommer du soda light un petit peu tous les jours? Je lui dis oui, parce que ça peut faire partie d'un équilibre alimentaire.
Maurice, bonsoir.
Bonsoir France Inter, et merci pour votre émission qui est excellente.
Merci à vous, bienvenue.
Il y a à peu près 18 mois, 2 ans, grosso modo, l'État a majoré, enfin, a mis une taxe supplémentaire sur l'ensemble des boissons sucrées et soda. Et je déplore cette mesure qui est habituelle de la part de nos dirigeants. Est-ce que l'on ne pourrait pas obtenir, au bénéfice de la santé publique, une baisse du pourcentage des sucres ajoutés dans ces boissons auprès des fabricants plutôt que de surtaxer ce qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose.
Merci Maurice pour cette question. Béatrice de Rénal.
En fait, cette surtaxe, effectivement, elle est toujours intellectuellement gênante. Moi, je suis plutôt dans l'esprit de faire confiance aux consommateurs ou aux patients et leur dire « soyez raisonnables », etc. Mais en réalité, elle a quand même fonctionné puisque la petite augmentation qu'il y a eu a quand même réduit la vente de ces produits. Donc, bon, voilà. Le problème, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours un bâton pour qu'une recommandation fonctionne. Bon, c'est déplorable, mais voilà, c'est un fait.
Laurent Chevalier à Montpellier.
Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères.
Allez-y.
Voilà, quand Boris dit qu'il n'y a pas de risque démontré et qu'il n'y a pas de problème quand on consomme des produits comme ça, je crois qu'on a quand même beaucoup de doutes, on a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à ces substances-là. Par exemple, vous avez votre cola light en face de vous, il y a aussi de l'acide phosphorique, il y a des colorants, du E150D... Et on sait, on a une étude qui a été faite sur plus de 60 000 femmes et qui montrait que, par exemple, une femme enceinte, qui montrait que la consommation d'une boisson gazeuse light par jour majorait le risque d'avoir un accouchement prématuré.
Vous savez que l'ANSES a remis en question
beaucoup de résultats.
C'est Boris,
non,
et c'est une étude d'observation. Vous savez, comme moi, c'est important de dire aux auditeurs comment sont faites ces études. C'est-à-dire que ce sont des études d'observation. C'est jamais des études pour établir une relation de causalité entre une substance et un événement clinique. Alors évidemment, on aimerait, je pense que mes confrères sont d'accord, on aimerait avoir ces études de causalité. Et pour ça, la seule méthode, mais malheureusement personne ne finance cela, et ça, moi j'aimerais que les industriels les financent, eh bien c'est de choisir des volontaires. La moitié, vous leur faites consommer des aliments qui comportent des édulcorants, l'autre moitié des aliments qui n'en comportent pas, et vous voyez les résultats. Malheureusement, c'est la seule manière d'établir un lien de causalité. Et on sait à quel point les études d'observation, où on établit une relation simplement entre un produit et un événement, sont biaisées. Vous savez, prenez l'exemple des traitements hormonaux de la ménopause dans le médicament, c'est la même chose. Oui. On a dit pendant longtemps que le traitement hormonal protégeait des maladies cardiovasculaires avec toute une panoplie d'études observationnelles. Quand on a fait les études d'intervention, on s'est rendu compte que non seulement ça protégeait pas, mais que ça augmentait le risque. Même chose avec la vitamine E. Il y a une vingtaine d'années, on disait il faut consommer de la vitamine E pour se prémunir contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. On sait aujourd'hui que quand vous consommez plus de 100 unités par jour de vitamine E, vous augmentez les risques. Donc, vis-à-vis des édulcorants, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Je dis qu'aujourd'hui, les études d'observation, et l'ANSES l'a vraiment dit, quoi. C'est l'Agence nationale de sécurité.
Non, mais je suis pas, attendez. Attendez, Boris Anselfini et Laurent Chevalier. Laurent Chevalier, c'est à vous, à Montpellier.
Je suis pas d'accord du tout, mais alors pas du tout. Avec ce que dit Boris. C'est-à-dire que, on va quand même pas transformer les hommes en cobayes. C'est ça qu'il propose pour des liens de causalité.
Mais non,
moi,
mais
je
non,
pense
attendez,
que quand on a des éléments suffisamment probants qui montrent qu'il y a un risque, notre devoir de médecin, c'est de mettre en garde. D'autre part, je voudrais dire une chose aussi importante, c'est que la dose journalière admissible dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire que la dose qu'on pourrait prendre sans effet notable sur l'individu,
dose d'édulcorant,
c'est une dose de 40 pour les édulcorants, c'est une dose de 40 mg par kilo de poids corporel, etc. C'est les études n'ont jamais été publiées dans des revues scientifiques pour dire que cette dose était la bonne.
Ça a été réévalué par
Béatrice de Rénal.
Mais attendez, pas du tout.
Ça a été réévalué.
Laurent
Chevalier.
Attendez, j'ai été auditionné à Bruxelles sur ce sujet-là. En fait, ils ont réexaminé les études. Ils ont dit, donc, bah, finalement, on n'a pas de raison de remettre en cause ce qui avait été dit. C'est tout. Et donc, ils n'ont même pas été aux sources, toujours. Ils n'ont pas toujours été aux sources. Donc, c'est tout à fait problématique. Cette dose-là n'a jamais été publiée dans des revues de référence scientifique.
Mmh, mais pourquoi n'y a-t-il pas consensus? Boris Hansen, moi, j'aimerais savoir pourquoi.
Il n'y a pas consensus, tout simplement, parce qu'en nutrition, vous ne pouvez pas avoir un niveau de preuve comme vous avez dans la pharmacologie. En pharmacologie, il y a des méthodes qui permettent de démontrer l'efficacité et les risques des médicaments. Parce que vous avez le produit, vous avez le placebo, et ben oui, on utilise des essais cliniques avec tirage au sort, et il ne s'agit pas d'utiliser les gens comme cobayes et leur faire prendre des risques. Évidemment, à chaque fois qu'on fait un essai comme ça, ça passe devant des comités d'éthique, et on ne fait pas n'importe quoi. Mais donc, on veut nous faire dire des choses qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être dites par la médecine et par la science. Donc, on n'est pas en train de dire « consommer des édulcorants ». Ce qu'il faut simplement dire, c'est « manger brut ». On est tous d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas alerter outre mesure. Celui qui veut prendre un principe de précaution extrême, évidemment, on va lui recommander de consommer brut, aucun produit industriel, limiter les sucres, limiter les matières grasses, faire du sport. Celui qui veut pouvoir profiter de certains produits industriels, on va le rassurer en lui disant qu'il ne signe pas son arrêt de mort, a priori, en l'état actuel des connaissances, s'il consomme un peu de boisson light. Mais encore une fois, je ne vais pas recommander à mes patients d'en consommer.
Bien compris. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous remercie d'abord et puis bravo à France Inter pour la qualité de ses émissions.
Merci.
Ma question est la suivante. Je voulais savoir s'il n'y avait pas une dépendance organisée, une dépendance industrielle, une stratégie de dépendance organisée sur l'alimentation et sur la dépendance au sucre en particulier.
Merci Stéphane pour cette question. Quelqu'un peut répondre autour de la table?
Oui, je voulais déjà répondre
sur les
interventions. Les études épidémiologiques, je pense, elles sont assez intéressantes par rapport à essayer de situer un lien entre ce qui est consommé et puis les pathologies qu'on peut voir. Actuellement, il y a une étude d'intervention, enfin une étude d'observation qui s'appelle Nutrinet, qui est auprès de la population française. Donc, grâce à ce formidable outil, on arrive quand même à avoir des informations pertinentes par rapport aux risques qui sont encourus, et ceci à long terme.
Sur les stratégies industrielles pour organiser la dépendance au sucre, l'addiction au sucre.
Voilà, et ça c'est un vieux fantasme dont j'ai toujours entendu parler. C'était le sucre, après c'était les colas, après etc. Et l'aspartame. Effectivement, il n'y a pas d'addiction à quoi que ce soit. Sauf que effectivement, lorsque vous mangez pas mal de glucides, par exemple, eh bien vous avez un bien-être. Vous avez une synthèse endogène d'opiacés, donc vous avez un bien-être qui se fait. Mmh. La même façon quand vous buvez certaines boissons. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a pas. Le sucre n'est pas de la cocaïne. C'est de la poudre blanche, mais c'est pas de la cocaïne.
Laurent Chevalier, un mot.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Écoutez, on a quand même des études qui montrent que quand on consomme du sucre en excès, quand on a tendance à consommer du sucre en excès, on a un inhibiteur de ce qu'on appelle les récepteurs D2 à la dopamine, et que finalement, on va chercher à consommer plus pour essayer d'avoir le même degré de satisfaction. D'autre part, la comparaison avec la cocaïne est intéressante, puisqu'on a des chercheurs du CNRS qui ont montré que quand on sevrait le rat à la cocaïne, et quand on sevrait le rat au sucre, eh bien, ils avaient des attitudes un petit peu similaires. Alors évidemment, il ne faut pas comparer la cocaïne au sucre, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des circuits de dépendance qui se mettent en place, et on flatte les sens, il y a ces circuits de dépendance, et bien entendu, l'industrie, qu'est-ce qu'elle a intérêt? Elle a intérêt à vendre le plus possible. Et c'est là la problématique que l'on a. Quant à l'étude Nutrinet, effectivement, c'est une étude qui est intéressante, mais il y a des pans entiers qui sont occultés, et notamment vis-à-vis des additifs, et des interactions entre les additifs. Donc, c'est un vrai problème que l'on a là. Mmh. Après ça, c'est sur la base du volontariat. Donc, en termes d'études épidémiologiques, je connais des études des épidémiologues de l'INSERM, qui n'ont pas souhaité participer à ça, puisqu'il y a tout un tas de biais, et ça va être très très difficile de conclure.
Boris Ancel et puis les auditeurs.
Oui, comme le dit Laurent Chevalier, là je suis assez d'accord. Nutrinet, c'est une très très belle étude épidémiologique, mais qui permet pas d'établir des relations causales, mais d'établir des questions qu'il faudra résoudre ensuite avec des études d'intervention quand on peut, ou un cumul d'autres arguments. Concernant l'effet addictif du sucre, oui, c'est vrai qu'on a des études de chimie qui montrent certaines fois des similitudes entre la consommation de sucre et de toxiques. Maintenant, quelle est la conséquence clinique auprès du patient? C'est là que aujourd'hui, on peut pas considérer le sucre comme une drogue. Donc, des études chimiques comme des études chez l'animal qui peuvent poser des questions intéressantes. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on est face à des patients, on se rend compte, il suffit de les écouter. Il y a certaines personnes qui vont vous parler du sucre comme une drogue. Ils vont vous dire, quand je prends du sucre, j'ai besoin de manger encore du sucre, et encore, et encore, et encore. Et puis vous avez d'autres patients qui en consomment modérément et qui n'ont pas ces particularités. Donc je crois qu'en nutrition, c'est très important d'écouter ce que disent les gens, parce qu'on n'est pas tous égaux. Et ce qui se passe chez le rat, ce qui se passe dans une éprouvette, ça, évidemment, c'est pas ce qui se passe chez l'homme. Et ce qui se passe chez un homme, c'est pas ce qui se passe chez un autre homme. Donc le bon sens, c'est de savoir s'écouter soi-même et de savoir à quoi finalement on se sent dépendant. Et bien évidemment, si on se sent dépendant à un aliment, que ce soit le sucre ou un autre, eh bien on va faire un travail là-dessus, pour essayer de s'en désaccoutumer et d'éviter les excès vis-à-vis de cet aliment.
Katia, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas de Rosemont. Et c'est vrai que le 18-20, bravo.
Merci.
Bravo.
Merci.
Et je voulais vous poser la question concernant le produit Stevia. On en a beaucoup parlé. Moi, pour pouvoir effectivement faire attention, ce produit me semblait intéressant puisque il est naturel, assimilable, et non calorique. Alors, qu'en pensent vos intervenants ?
Merci Katia pour cette question. Je donne la parole à Alain dans la foulée, Alain des Hautes-Pyrénées. Bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est une question à peu près similaire. Moi, c'était à propos du sirop d'agave. Je voulais savoir si c'est une bonne chose de remplacer le sucre par le sirop d'agave, sachant qu'il a un indice glycémique beaucoup plus faible.
Voilà. Merci Alain pour cette question sur le sirop d'agave. La parole à Christian du Centre. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous, c'est sur le sucre roux, hein, si j'ai bien compris.
Ben oui, parce que finalement, la nourriture aujourd'hui, elle est truffée de produits raffinés et puis d'additifs. Moi, j'élimine 95% de ce qu'il y a dans les rayons à cause de ça. Alors, je me dis, entre le sucre blanc et les succès d'année du sucre, est-ce que le sucre roux, ce serait pas le terme acceptable ?
Merci Christian pour cette question. Stevia, sirop d'agave, sucre roux, qui veut se lancer ? Béatrice de Rénal.
Ben oui, moi sur la stevia, parce qu'en fait, ce n'est pas... Évidemment, la plante stevia, elle est naturelle. Nous, moi aussi, je suis naturelle. Mais le stéviozide, non. C'est-à-dire, ce qu'on vous vend en sucrète, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel parce que c'est une extraction d'une partie de la plante et c'est extrait avec des méthodes qui ne sont pas naturelles. Et c'est un produit qui n'a pas le droit à la mention naturelle. Donc, il y a une petite feuille verte sur le truc. Donc, on se dit, ben oui, c'est naturel, mais ce n'est pas naturel.
Sirop d'agave.
Alors, sirop d'agave, c'est du fructose. Donc, le fructose n'est pas insulinogène, mais par contre, il pose d'autres problèmes métaboliques et ouais, en particulier.
Les triglycérides, les graisses dans le sang.
Donc, maladie cardiovasculaire, on va dire. Donc, c'est pareil, mollo. En fait, en nutrition, c'est tout le poison. Rien n'est poison, mais
sucre
tout est dans
roux
la dose.
Par rapport à sucre blanc.
Kiff, kiff.
Pareil.
Ok. Alors allez-y, Boris Ancel.
Je crois qu'il faut distinguer le sucre qu'on a envie d'ajouter dans son café ou dans le thé parce qu'on en a besoin, on a une saveur avec ça qui nous donne un petit plaisir le matin, et le sucre qui sont dans les produits industriels ou les substituts. Moi, personnellement, je ne crois pas que le problème soit l'ajout d'un demi-sucre, qu'il soit blanc ou roux, dans le café. Et quand on me demande, ou même quand un patient me dit « Vous savez, moi, je mets une sucrète à la place du sucre », je dis « Mais pourquoi ?» Mettez, si vous avez besoin de ce goût sucré, mettez un demi-sucre, mettez un sucre. En revanche, faites beaucoup plus attention au sucre ajouté, aux graisses cachées qui sont dans les produits industriels. Donc c'est un faux problème. Le petit sucre qu'on ajoute est un faux problème. Donc si la question c'est est-ce qu'il faut le remplacer par la stevia, l'aspartame ou du sirop d'agave, je dis clairement non.
Et qu'est-il advenu de la saccharine ? Moi quand j'étais petit, on entendait parler de la saccharine tout
oui,
le
mais
temps.
Si vous voulez, il y a un tableau de Mendeleïev avec les édulcorants, toutes les matières sucrantes, et là-dedans, il y a beaucoup d'édulcorants qui ont des arrière-goûts, etc. Et la saccharine, c'est pas bon. D'ailleurs,
c'est pour ça qu'elle a disparu, voilà. remplacée par l'aspartame.
Elle a été remplacée par d'autres choses. Aujourd'hui, l'aspartame est de moins en moins fréquent sur les rayons, puisque les gens en ont eu peur, et que maintenant, c'est du sucralose. Donc le sucralose, c'est une molécule de sucre auquel on a attaché du chlore. Donc c'est absolument pas digestible, donc c'est zéro calorie. Mais voilà, il n'y a pas d'arrière-goût et on peut le faire chauffer. Alors que l'aspartame, on ne pouvait pas le faire cuire. L'acésulfame de potassium, ça a un goût métallique pas très agréable. Et la stevia, la plante, elle a un goût de réglisse très fort. Alors dans le café, ce n'est pas terrible.
Boris
Ancel puis Laurent Chevalier.
Juste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis du goût que l'on ressent.
Oui,
en fonction de nos gènes, nos particularités, ben certains vont ressentir un goût amer avec tel ou tel édulcorant, alors que pour d'autres, ce goût amer n'existe pas.
Laurent Chevalier, êtes-vous d'accord ou pas ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Boris, là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut mieux prendre à demi sucre.
Ça fait une petite zone de consensus.
Non. On a beaucoup de consensus ensemble. Mais bon, là, en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais dire deux petites choses. Concernant la stevia, il faut savoir que, bien entendu, c'est une partie, le rebodiozide A, qui est utilisé, steviozide. Mais on peut le faire par synthèse. On n'a plus besoin de la plante. C'est-à-dire qu'au dur, on a des procédés industriels et on n'a plus besoin de la plante. En plus, comme l'a dit très justement Béatrice de Rénal, il y a des procédés d'extraction qui nous posent quand même un certain nombre de problèmes. Oui. Et je voudrais ajouter une petite chose concernant le sucre roux de votre auditeur. Il faut savoir que aujourd'hui, on cherche plus de naturalité, etc. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont chercher du sucre roux, qui pensent qu'il n'est pas raffiné. Or, en fait, ce qu'on peut trouver, c'est du sucre blanc raffiné qui a été chauffé et qui apparaît comme roux. Donc il faut regarder sur l'étiquette, il y a marqué caramel. S'il y a marqué caramel, ça veut dire que c'est du sucre qui a été chauffé.
Jean d'Antibes nous demande si on consomme du miel, est-ce que cela pose un problème quant au sucre ou est-ce que là on a un produit qui est pour le coup naturel? Qui veut répondre, Béatrice de Rénal?
C'est naturel, oui, bien sûr, mais le sucre c'est un produit animal puisque c'est une régurgitation du jabot de l'abeille et en fait globalement c'est du sucre, mais les deux sucres ont été détachés, donc c'est exactement même apport calorique que le sucre, sauf que c'est pratiquement plus rapide en assimilation.
Allez, la parole à Robert de la Drôme. Bonsoir, bienvenue Robert.
Bonsoir, bravo pour vos émissions. Simplement un petit témoignage. J'ai appartenu à la société qui a lancé l'aspartame en France.
Ah, racontez-nous.
Donc, je m'en souviens très bien. C'était une découverte révolutionnaire, par hasard, un chercheur aux États-Unis s'est aperçu que deux acides aminés mis côte à côte donnaient un goût sucré. D'où jaillit l'idée de créer l'aspartame. Donc, simplement, pour résumer un peu les choses, l'aspartame, son principal défaut, c'est qu'on ne peut pas le faire cuire. Mmh. En dehors de ça, toutes les études que j'ai eues à connaître, en tout cas, ne présentait pas de dangerosité particulière pour l'aspartame. En revanche, l'objectif de l'aspartame, c'était de flatter ce goût du sucre que tout petit, on identifie à la récompense, au bonheur, au plaisir, et donc de créer des consommateurs dépendants non pas du sucre, mais du goût du sucre. Merci.
Ben, il y avait donc un projet démoniaque, Robert, derrière l'aspartame.
Il n'est pas du tout démoniaque, mais c'est un hasard qui a fait que l'aspartame a été créé. Mais évidemment, les gens chargés de vendre ces produits ont immédiatement vu les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer. J'en ai profité puisque je faisais partie de cette société.
Bah écoutez, merci Robert pour ce témoignage et ce souvenir. J'ai une question SMS sur mon téléphone. On me demande de vous poser la question suivante. Et la nouvelle molécule miracle qui transforme le goût acide en sucre? Je ne la connais pas celle-là.
Ah, si, c'est un fruit qui
Béatrice
s'appelle...
Béatrice de Rénal.
C'est la miraculine. Donc elle est
qui
effectivement
porte bien son nom,
voilà.
Oui.
En fait, c'est un fruit qui donne que vous, lorsque vous le consommez, tout ce que vous consommez après a le goût sucré, enfin est sucré. Mais ça n'apporte pas de calories. Mais pour l'instant, c'est pas encore autorisé en Europe. Donc vous ne le trouverez pas en magasin.
On la trouve où?
Alors c'est un fruit
sur internet.
je suis pas sûre non plus.
Aux États-Unis.
Mais non, essentiellement en Asie, vous allez en trouver. Mais pour l'instant, je vous le recommande pas forcément parce que les modes de production et d'extraction sont pas forcément formidables.
Je suis parfaitement d'accord.
Boris Ancel.
Je suis parfaitement d'accord. Moi, je fais quand même confiance, malgré tout ce qu'on dit, à nos autorités européennes. Il y a quand même un certain nombre de contrôles qui sont faits avant les mises sur le marché. Alors, voilà, je partage. Attendons.
On me dit que ça s'appelle Sinsepalum dulcificum. Non, ça vous dit rien, ça?
Non.
Écoutez, moi, je parle juste français.
Non, je reconnais pas le terme, mais peu importe. Après, il y a beaucoup d'autres fruits. Il y a par exemple le monk fruit ou bien le fruit du moine, qui lui est un. Ça sera sans doute le prochain édulcorant après stevia et qui a un goût très très sucré aussi.
Laurent Chevalier à Montpellier.
Oui, plusieurs choses. Je pense que comme édulcorant, le plus intéressant actuellement, c'est la cannelle, tout simplement. Ensuite, contrairement à Boris, je veux dire, au niveau européen, je suis désolé, mais il y a des conflits d'intérêts. Et il y a une autre problématique qui est quand même très préoccupante, c'est que finalement, quand un expert a dit qu'il n'y avait pas de problème et que par derrière des études viennent en disant il faut faire attention malgré tout, eh bien ils ont beaucoup de mal à se déjuger, ils ont tendance à s'enfoncer et à chercher à se justifier de façon permanente alors qu'ils sont dans l'erreur.
Je crois
quant à Robert, je suis malheureusement, je ne veux pas contrarier, mais il y a quand même un certain nombre d'études, notamment chez l'animal, qui ont été faites et qui montrent que l'aspartame pose des problèmes, que sur certains modèles, alors je dis bien sur certains modèles de souris et de rats, on a une augmentation des cancers, etc. Alors je suis tout à fait d'accord
pour dire que c'est pas transposable
à l'homme.
Permettez-moi, Laurent Chevalier, une question. Comme médecin nutritionniste au CHU de Montpellier, vous êtes approché par les lobbies du sucre ou des édulcorants?
Oui.
Alors, expliquez-nous.
Alors, fait arriver un petit peu où finalement, Les industriels sont pas forcément très contents, donc ils écrivent au conseil de l'ordre des médecins, ils écrivent au directeur de l'hôpital, etc. Donc il y a
pour dire quoi
forme pour dire quelle, par exemple, pour le conseil de l'ordre, quelles mesures ils comptaient prendre pour faire attention à ce que je disais. Au niveau de directeur de l'hôpital, ils peuvent, ils ont écrit aussi en laissant entendre que s'ils démentaient pas mes propos, ça veut dire qu'ils les acceptaient, que ça pouvait avoir des conséquences, etc. Donc on est soumis à un certain nombre d'intimidations. Effectivement, elles sont pas tout récentes, mais sur des sujets sensibles, il faut pas croire que ce soit des enfants de cœur. Donc, moi, je suis d'accord avec Béatrice de Rena pour dire qu'il faut pas mettre tous les industriels dans le même sac, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même des mécanismes de fonction qui posent des problèmes. Et au niveau de l'Europe, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on est mal protégé. Les associations entre les édulcorants sont pas à étudier. Les associés entre les différents additifs sont mal étudiés, etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez, en plus, quand il y a des autorisations de mise sur le marché, parfois elles sont extrêmement anciennes et on ne tient pas compte des récentes études.
Boris
Donc,
Ancel,
on a besoin de plus de science et que c'est un vrai, vrai problème aujourd'hui, la protection des consommateurs.
Sur le poids des lobbies, Boris Ancel, du sucre ou des édulcorants.
J'ai la chance d'être médecin titulaire de mon poste hospitalo-universitaire à la faculté Bichat et l'hôpital Bichat. Non, j'ai jamais eu de pression, ni d'ailleurs de lien avec les industriels du sucre ou des édulcorants. En revanche, effectivement, il peut arriver qu'on veut plutôt nous amadouer dans tel ou tel sens. Mais on voit les choses venir et évidemment, on ne cède pas à ça. Mais pas de pression et pas de risque pour mon poste.
Et vous, Béatrice de Rénal, ce sera le mot de conclusion.
Alors, sans aucun doute, les lobbies sont très puissants. Et moi, j'ai été menacée, mais pas forcément sur le sucre, mais sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, je pense que si on avait été un peu... ça peut aller extrêmement loin.
C'est inquiétant, on va faire une émission là-dessus. Tiens, merci à tous les trois, Laurent Chevalier, Béatrice de Rénal, Boris Ancel et merci à vous, amis auditeurs d'Inter. Le journal est à suivre.